de moi, qui posera sur moi le regard bienveillant, par exemple, d'un grand frère.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell, et aujourd'hui on va parler donc des 10 ans des Big Brother Awards. Donc on les réinvite cette fois-ci pour parler de cette nouvelle période qui s'annonce. Vous écoutiez une chanson qui a été réalisée par l'atelier chanson Jolie Môme à l'occasion de la cérémonie des 10 ans des Big Brother Awards. Donc on est avec Christine et Jérôme qui vont nous parler donc de cette cérémonie qui a eu lieu il y a quelques semaines. Voilà, donc Christine, tu peux peut-être nous dire quelques mots sur cette cérémonie donc, qui avait lieu donc, à...
au théâtre de la Belle Étoile, théâtre de Jolie Môme à Saint-Denis. Et je tiens à préciser qu'on a aussi Jean-Pierre qui était membre du jury cette année.
Et qui fait partie, donc c'est pour représenter Souris, vous êtes filmé, voilà.
Oui, c'est ça, ouais.
Notamment.
Et exactement. Donc tout s'est très bien passé. On a fait deux palmarès. Hein. On avait présenté le premier la dernière fois, le palmarès 2010. Donc les gagnants étaient connus avant la cérémonie parce qu'il y avait un deuxième palmarès où là c'était le public qui votait et on a remis donc le deuxième palmarès également ce soir-là.
Alors est-ce qu'il y a nous on n'avait pas parlé du palmarès du jury.
Oui,
on peut peut-être en dire deux mots et puis aussi le palmarès des 10 ans, donc là celui du public.
Bah, le palmarès de 2010, en fait, on s'est aussi un peu fait plaisir parce que bon, nous on est tous avec Christine, on est surtout aux manettes pour référencer un petit peu les dossiers qui vont se proposer. Et là, généralement, on fait un gros tri. Et là, cette fois-ci, on s'est un peu laissé aller. On a laissé passer 60 candidats, je crois, une soixantaine. Et donc l'idée, c'est que on a en même créé deux catégories supplémentaires, des mentions spéciales. Alors, on s'est vraiment fait plaisir. Et donc, on a remis 9 prix Orwell en 2010 et un prix Voltaire. D'habitude, c'est plutôt 6 ou 7.
Donc, je te le fais en 2 minutes. État élu gagnant, Éric Besson. Ensuite, prix catégorie fichier, le fichier bas élèves du ministère de l'Éducation nationale.
Même tous les fichiers de l'Éducation nationale.
Tous les fichiers de l'Éducation nationale, mais enfin spécifiquement bas élèves. Ouais. Ensuite, catégorie exécuteur des bases œuvres, un dénommé Éric Ciotti, qui est un des acolytes, un des jeunes montants qui travaille beaucoup avec Hortefeux et son copain Estrosi, qui est dans la même région. Ensuite, en localité, on retrouve Estrosi.
Rebelote. Tiers groupé pour le 06.
En novlangue, on retrouve Hortefeux, donc ça fait tiers ses gagnants. Hortefeux pour le terme vidéoprotection et la réécriture de la totalité des lois pour changer vidéosurveillance en vidéoprotection. Donc ça, c'est du pur Orwell.
Estrosi, c'est pourquoi ?
Il est maire de Nice. Il est aussi, évidemment, ministre de l'Industrie. C'est lui aussi, en tant que député, qui a... qui a poussé, qui a écrit la loi anti-bande, hein, donc il est très actif.
Le couvre-feu pour les mineurs.
Dans le domaine sécuritaire, mais c'est vrai qu'il a été primé en tant que maire de Nice et pour divers faits d'armes, notamment le plus grand centre de supervision de vidéos surveillées de France. Il y a 600 caméras, je crois, branchées en réseau. Et il y a aussi, dans le dossier qu'on avait constitué, 4 ou 5 éléments qui montraient qu'en fait, qu'à chaque fois qu'il y avait au sein de la société ou du gouvernement des initiatives sécuritaires, comme par exemple mettre des portiques de sécurité dans les écoles, hein, ce qui ferait arriver les gamins à 5h du matin entre nous, hein, parce qu'évidemment, ça prend du temps de mettre des portiques. Estrosi, il a levé la main, tout de suite, il a dit « Oui, moi je veux tester ce dispositif ». Et puis après, je crois qu'il y avait les tasers, police municipale,
le couvre-feu
pour les mineurs de moins de 13 ans.
La suppression des allocs.
Et il est aussi partie prenante dans le fait que les Alpes-Maritimes sont département test, avec Éric Ciotti également, qui en tant que député œuvre très fort là-dessus, pour donc supprimer les allocs aux parents d'enfants qui ne vont plus à l'école, quoi. Les crocheurs, on va dire.
Non, il méritait bien son prix.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que depuis, il y a eu dans le Parisien, dans France Soir, 3 pages sur le contrôle, sommes-nous surveillés, sommes-nous fichés, etc. Ils sont allés interviewer Estrosi. Dernière question, qu'est-ce que vous dites d'avoir reçu un Big Brother Award? Estrosi a dit qu'il était très content, il dit ça toujours, hein. Et ils ne viennent pas le chercher, mais ils disent qu'ils sont très contents. Et qu'ils nous invitaient en grande pompe à Nice pour la remise du dit prix. Donc on est en train de voir si les dates coïncident et si M. Estrosi tient ses promesses. On va peut-être aller à Nice lui remettre. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme catégorie?
Où est le problème?
Entreprise.
C'est le titre de l'interview de
Entreprise, si je ne m'abuse, c'est les banques.
Et la Poste aussi, je crois.
Oui, il y a la Poste, entre autres.
La
il y a,
banque postale,
il y a
ouais,
toutes
banque
les banques
poste.
Pour le zèle des employés ou des directeurs, hein, ça dépend des établissements, qui s'emprincent d'appeler les services de l'immigration des préfectures quand ils ont un sans-papier à leur guichet. Donc ça méritait bien un prix aussi. Ensuite, dans cette catégorie Internet, il y avait aussi un prix Média, parce qu'on avait 6 dossiers différents de médias.
C'était plutôt dans la nouvelle langue, en fait.
Ah oui, là c'était Internet.
Oui, je me trompe.
Dans la novlangue, on avait inclus un dossier sur les journalistes qui font le boulot de la police.
Voilà. Alors c'était quoi la mention spéciale? Ah non, mention spéciale Internet, quoi, de manière générale.
Spéciale Internet, effectivement, c'était une déclinaison des entreprises, puisque cette année, on avait quand même effectivement 6 ou 7 dossiers entreprises.com, des entreprises Internet qui se servent du réseau pour vendre leur cam. Et là, c'est TMG, c'est une société... d'ailleurs, elle est dans l'actualité en ce moment, parce que c'est celle qui a été choisie par le gouvernement pour gérer toute la récolte d'adresses IP des soi-disant pirates qui téléchargent à outrance. Voilà, donc la loi Hadopi, etc. Et TMG est une boîte nantaise qui a été créée en 2005. Et au début de l'année, comme par hasard, avant que ça devienne un choix... avant qu'il soit choisi par le gouvernement dans le cadre de ce marché... Thierry Lhermitte, le grand acteur Thierry Lhermitte.
Le grand acteur.
Ok, on va pas non plus lui dresser des lauriers, mais c'est donc Lhermitte qui est actionnaire majoritaire. Il a mis 50 000 euros dedans. Je sais pas grand chose d'ailleurs. Mais... Et donc c'est lui avec la société qui a obtenu la mention spéciale Internet. Donc ensuite, la mention spéciale Média, c'est ça, ouais.
Et la novlangue aussi, le prix novlangue.
Le novlangue, c'était Hortefeux.
Ah oui, on l'a dit, ouais.
Déjà.
Ouais.
Et dans les médias, on a distingué la rédaction de TF1. Bon, on aurait pu le faire pour l'ensemble de son œuvre, évidemment. Là, et l'occurrence, c'était surtout sur l'affaire des Conti, où les journalistes de TF1 n'avaient pas flouté les images comme promis, ce qui les a conduits devant le tribunal, et également les infiltrés. Bon, l'émission les infiltrés pour les arguments spécieux des producteurs et rédacteurs en chef pour essayer de vendre le fait que c'est pas grave de mettre des caméras cachées pour faire du journalisme d'investigation. Et ensuite, il y avait quoi d'autre?
Prix spécial du jury.
Après, il y a le dernier, le 9e prix Orwell. C'était le prix spécial du jury. Et ben, comme on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous un membre du jury des BBA 2010, il va peut-être nous expliquer ce qui s'est passé à propos du prix spécial du jury.
Jean-Pierre. Le prix spécial du jury, c'était pièce et main d'œuvre.
Non. Non, tu confonds.
Ça, c'est prix Voltaire.
Alex Turc. Ah.
Et pourquoi ?
Alex Turk, parce qu'il est nominé chaque année et qu'il n'a jamais remporté de prix et que pour la 10e édition, il était particulièrement judicieux de le nominer.
Et il nous a d'ailleurs répondu sur Facebook.
Voilà.
En disant qu'il était tout à fait honoré d'avoir un prix comme ça, et en qualifiant le jury de pseudo-experts. D'obscurs experts, dont l'influence était ridicule, etc. etc. Preuve que le monsieur a quand même peu apprécié, je pense, d'être décoré.
C'était du rire jaune.
Et il y a une conférence de presse. Il y a une conférence de presse de la CNIL où peut-être le diplôme pourrait être remis.
Et puis il faut quand même signaler que pendant la cérémonie, il y a un petit document qui montre Alex Turk dans un autre cadre en train de dire que ça serait bien finalement qu'il y ait un prix pour les individus ou citoyens qui se battent sur les libertés, quoi. Donc
oui, c'est ça,
c'est pas mal pour les...
C'est une vidéo qu'on a retrouvée sur leur site d'ailleurs, la CNIL. Et c'était une vidéo qui revenait en fait de Strasbourg. Il y avait une réunion des CNIL mondiales, ça. Et il revenait avec ce grand projet, donc septembre 2008, en disant, voilà, j'ai porté ce projet auprès des CNIL mondiales. Ce que je veux faire, c'est comme un prix Nobel de la protection des données. Voilà. C'est son grand rêve, donc, de créer une vraie institution qui remette un trophée tous les ans, comme le prix Sakharov des droits de l'homme, par exemple, tu vois. Donc, ce serait peut-être le prix Alex Turk de la protection des données, qui serait remis à une personne méritante et tout. Donc, évidemment, nous, on est candidats à mort.
Mais hein, comme c'est un réseau international, les Big Brother Awards, on est évidemment candidats et la logique voudrait qu'on ait le premier si un jour existe.
Bah, quand on écoute le document, on a l'impression que c'est un hommage au Big Brother Awards.
Voilà, donc il n'a pas réussi à créer son prix Nobel, hein, mais en revanche, il s'est pris un Big Brother Award dans les dents. Voilà.
Et alors le prix Voltaire, donc pour justement les personnes, les
militants. On sait, pièce et main d'œuvre.
Prix Voltaire 2010, pièce et main d'œuvre.
Et pièce et main d'œuvre parce que c'est à la fois un groupe de réflexion, d'action. Ça fait des années qu'ils font un remarquable travail. Qui ont permis de mettre en avant les dangers des nanotechnologies. Donc déjà, rien que pour ça, c'est déjà... ça mérite un prix. Mais en plus, au-delà de pièces et Madoff, c'est tout un réseau qui s'est constitué avec des collectifs dans plusieurs villes. Donc c'est aussi... c'est au-delà de pièces et Madoff, c'est tous les gens qui résistent en France sur les technosciences et tous leurs dangers. Donc ça va quand même assez loin. Même si ce prix... a peut-être provoqué quelques polémiques et tout le monde n'est pas obligatoirement d'accord.
Oui, non, mais Pièce et Manœuvre, en fait, ils sont fidèles à eux-mêmes, ils sont critiques sur énormément de domaines, y compris l'action ou parfois peut-être le mode d'action des Big Brother Awards. Ils l'ont déjà écrit dans plusieurs ouvrages, ils s'en cachent pas, et c'est vrai qu'ils ont accueilli ce prix presque comme un échec pour eux, en sachant que de toute façon, ils sont pas là pour avoir des distinctions ou des non-distinctions. Voilà, bon, ils ont publié quelque chose de très carré, voilà, comme à leur habitude, très fourni comme texte pour répondre un petit peu à tout ça. Ouais, il y a pas de,
il y a pas. Qu'ils disent alors dans leur texte ?
Ah, ben, faut le lire, non, c'est vraiment très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué.
Alors, on leur a répondu aussi.
Ils expliquent leur démarche finalement, hein, et comme quoi le fait que l'on résume leur action à un prix. Serait pour eux dénaturer leur action, voilà. Mais c'est effectivement, on peut le dire de tous ceux qui ont été cités dans notre modeste manifestation depuis 10 ans d'ailleurs, mais voilà. Mais voilà, on est quand même, des compagnons de route sur pas mal de domaines, et puis on continuera à échanger des infos, parce que l'essentiel c'est quand même l'information, et qu'est-ce qu'on en fait pour résister, quoi.
Enfin, c'est tout à fait mérité qu'ils soient honorés par les Big Brother Awards.
Ouais, moi je pense que c'est la marque de... C'est vrai que le fait que ça arrive au bout de 10 ans, pourquoi pas, puisque depuis 2002, finalement, ils sont sur le coup, quoi. Hein, ils sont créés un petit peu en créant un site internet et ils font contribuer pas mal de personnes. Ils ont relayé cette année aussi essentiellement La campagne d'acceptation des nanotechnologies qui a été orchestrée par le gouvernement via une commission du débat public avec une boîte privée derrière qui régente tout ça, organisait des débats dans une quinzaine de villes.
Et d'ailleurs, ça recommence. Hein.
Non, ça va recommencer.
Ils ont remis Vivagora qui dit il y a des critiques à faire des nanotechnologies, mais alors nous allons le faire calmement, posément, et non pas comme les excités là qu'on a eu récemment. Donc il y a une reprise en main du débat public soi-disant et de la critique par quelque chose qui émane aussi des sphères politiques.
Et avant de parler donc du prix du public donc sur l'ensemble, sur les 10 ans des Big Brother Awards, peut-être vous pouvez rappeler comment s'est déroulée donc cette journée de cérémonie.
Oui, donc c'était le 29 mai, la Belle Étoile. Exceptionnellement, on avait donc une journée entière, enfin une après-midi et une soirée. D'habitude, on donne rendez-vous aux adeptes vers 20h. Là, c'était plutôt 14h, donc il y avait... Il y avait donc la compagnie Jolie Môme, l'atelier chanson de la compagnie Jolie Môme, qui donc a interprété le morceau qu'on a écouté au début. Interprété et non seulement également écrit spécialement pour nous. Super, on est vraiment enchantés. Et donc il y a eu des débats, il y a eu des ateliers assez fructueux, en petits groupes, vraiment. On a rencontré des gens qu'on croisait et puis qu'on n'avait pas vraiment eu l'occasion de rencontrer. Et ensuite, on a donc fait un rappel du palmarès 2010. Et ensuite, on est donc passé au résultat du vote. Je ne sais pas si on peut appeler ça un vote, plutôt une consultation amicale. On a lancé ça sur Internet une semaine avant. Donc, on a extrait, en fait, depuis, sur les différents palmarès entre 2000 et 2009, on a extrait finalement...
les worst of.
Voilà, les pires de tous, quoi. C'est-à-dire, dans 5 ou 6 catégories, on avait 3 ou 4 candidats, donc parmi ceux qu'on a déjà primés depuis il y a 10 ans. Et là, c'est vrai qu'on a donc demandé aux personnes de se prononcer. On organise même un vote avec une vraie urne transparente. Merci la ville de Saint-Denis de l'avoir prêté, donc pour sonder aussi les personnes qui étaient présentes physiquement. Et donc voilà, donc on peut peut-être le donner.
Prix, alors État élu, il n'y avait que des ministres nommés. Donc prix État élu, c'est les ministres de la culture successifs. Hein. Donc il y avait Donnedieu de Vabre, il y avait Christine Albanel, Frédéric Mitterrand, le dernier.
Il y avait Ayagon aussi.
Et il y avait Ayagon, bien sûr. Donc c'est pour la batterie de loi qui prétend mettre en place des dispositifs techniques susceptibles d'enrayer l'échange d'œuvres culturelles sur le réseau. Je dis prétend parce qu'évidemment, c'est impossible. Mais le résultat brut, c'est que ça, par contre, ça limite très sérieusement les libertés des internautes et les droits d'usage qu'on peut faire d'œuvres, y compris de DVD achetés. Quoi. Donc, bon, voilà. Les internautes ont énormément voté et donc, très naturellement, c'est ce candidat-là qui est arrivé en avance d'une courte tête, néanmoins, devant Bazélève.
Il y a beaucoup d'internautes qui sont exprimés. Combien de personnes?
Ça, c'est top secret.
Ça, on ne dit pas.
Ça, c'est le secret du vote, ça, mon gars.
Mais 42 000 à peu près, quoi. Voilà.
Non, mais c'est vrai que l'idée, c'était pas vraiment de faire un vote, parce qu'on sait très bien que c'est bidon et que c'est même dangereux de faire croire aux gens qu'on peut sur Internet voter et s'exprimer. C'était plus un défouloir. Voilà. Nous aussi, on s'est amusé à le faire. Donc, juste avant de passer à la deuxième catégorie, en face de la culture, il y avait 3 autres ministères, donc la santé, l'éducation, donc, et le travail, affaires sociales, avec tous les fichiers de la précarité, le dernier CARA avec le RSA. Mmh. Voilà.
Donc ensuite, on avait gardé la catégorie exécuteur des bases œuvres parce qu'on l'a créée cette année, mais en fait, elle existait dans tous les dossiers, dans tous les palmarès, les nominations des années précédentes. Donc là, cette année, le prix du public s'est porté sur l'INSEE, le directeur de l'INSEE, Charpin.
En 2005.
Qui était primé en 2005. Qui a énormément travaillé main dans la main avec le ministère de l'Intérieur pour mettre en place les passeports biométriques, y compris en allant jusqu'à modifier le fonctionnement du NIR, donc du registre INSEE, où chacun est inscrit dès sa naissance. En augmentant les paramètres inscrits dans ce NIR et en donnant accès, un accès élargi pour les besoins des documents d'identité biométriques.
À l'époque, c'était le projet d'une carte d'identité sécurisée INES, qui n'a pas encore vu le jour en tout cas. Mais c'était plus la volonté du directeur de l'INSEE de l'époque que la concrétisation, parce que c'est vrai que c'est... Pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce qu'il en est, mais c'était vraiment une brèche, c'est-à-dire le fait qu'un directeur d'administration, un haut fonctionnaire, décide tout seul de dire OK à un ministre, donc à un personnage politique, donc d'ouvrir un fichier national énorme, tentaculaire, et qui avait été limité après la Deuxième Guerre mondiale, justement pour éviter toutes les dérives qu'on a eues avec le fichage sous Vichy. Quoi, voilà.
Donc la catégorie suivante, c'est localité. Donc là, en localité, on avait un certain nombre de maires. Il y avait mise en place de vidéosurveillance souvent, hein, mais avec des méthodes particulièrement scélérates. Donc il y avait des maires de droite et puis il y avait aussi des maires de gauche, bien entendu, genre Colomb, le maire de Strasbourg actuel. Des connus de nos services. Et puis, il y avait un autre dossier différent, lui, qui était les 400 directeurs de lycée, enfin 400 et quelques directeurs de lycée qui se sont précipités pour implémenter de la biométrie, des systèmes biométriques soit aux portes d'accès des lycées, soit dans les écoles, aux cantines. Donc, il y avait un gros paquet de 400 et finalement, le public a choisi ce candidat-là.
Ensuite, qu'est-ce qu'on avait encore ?
Ensuite, entreprises.
Les entreprises, là, on avait choisi aussi, il y avait 4 choix. Et là, encore une fois, les internautes ont vraiment fait pencher la balance. On avait fait un dossier couplé entre le lobby en fait, de l'industrie musicale, c'est-à-dire à la fois les producteurs de disques en tant que syndicat, en tant qu'organisation, et deux maisons de disques, Sony et Universal. Sony, parce qu'ils avaient installé... un logiciel espion dans les CD audio en 2006, et Universal grâce à M. Pascal Nègre, qui a été un des VIP primés depuis, en 10 ans, on en a pas eu beaucoup. Et Pascal Nègre, à l'époque, il militait à mort pour tout ce qui se passe aujourd'hui avec Adopi. Donc ça, c'était donc dans les entreprises, donc le lobby de la culture. Ensuite, en novlangue, on a revu un beau doublé qu'on avait primé en 2004, le député Benisti et l'Inserm, pour les questions liées à la détection précoce, enfin pseudo-détection précoce des comportements délinquants chez les enfants.
Oui, la courbe du jeune qui s'éloigne du droit chemin.
Voilà. Donc ça, c'est un dossier.
Et pour l'INSERM, c'était, ils sont allés jusqu'à dire, ces chercheurs, qu'on pourrait même détecter en prénatal.
Bon. Et puis ensuite, il y avait là en novlangue, on avait, c'était donc en novlangue. On avait qui en novlangue d'autre ?
L'ensemble de son œuvre.
Oui, c'est ça.
Bah, pris ensemble.
Voilà, moi, je voulais juste citer les autres candidats quand même de novlangue. Il y avait le fameux Gixelles, parce que le Gixelles,
bleu.
Qui donc n'a finalement pas emporté les suffrages du public. Il y avait aussi le projet européen Humabio, qui est de la biométrie multimodale, avec un discours marketing et novlangue hallucinant derrière.
Et des gros crédits.
Voilà. Et il y avait Frédéric Pechnard, le fameux chef de la police nationale, qui avait, en 2006, je crois, plaidé pour un fichage ADN de toute la population. Comme ça, s'il y a un problème, eh ben on saura que vous êtes innocent. Voilà la belle maxime de M. Pechnard, qui ne l'a donc pas emporté. Ensuite, ensemble de son œuvre, on avait Alain Bauer, le grand pape de l'insécurité. On avait Alex Turc, encore une fois. Et on avait le ministère de l'Intérieur. Mais finalement, c'est le groupe Thales, donc l'énorme entreprise... ex-Thomson CSF, l'entreprise qu'on a tous payé, parce que c'est une entreprise publique qui est devenue privée, et qui maintenant regroupe toutes les plus belles saloperies technologiques qu'on peut imaginer dans le cadre d'un fournisseur de solutions. Quoi. Donc,
smart corridors.
Ils ont de la biométrie, ils ont des systèmes de...
C'est surtout les trucs aux frontières qui sont...
Ouais, au niveau...
Ils vendent à tous les pays qui veulent faire la chasse aux migrants. Ils vendent le dispositif complet, aérien, terrestre, sous-marin, des caméras, des trucs de détection infrarouge.
Les drones.
Il y a tout, absolument tout. Quoi.
Ils ont maintenant un kit qu'ils appellent...
C'est du bel ouvrage.
Ville sûre. Ciudad Securad, Secure City, c'est un pack avec tout, pour les, toutes les villes, donc il n'y a pas que les caméras, il y a toute la fluidité, les transports, les cartes à puces, et tout ça en réseau, évidemment lié à tous les services de police possibles, imaginables. Donc dans tous les domaines, sûreté aérienne, aéroportuaire, tout ça, ils sont là. Thales, ils sont là tout le temps.
Le grand, grand gagnant.
Et derrière, d'ailleurs, j'ai vu récemment, hein, le gros gag, c'est qu'ils ont fait une grosse com récemment, Thales, sur un simulateur de mêlée en rugby. Alors ça, c'est le grand truc des groupes industriels qui travaillent dans la défense et qui ont besoin de se faire une virginité au niveau du public. Donc, comme si généralement des technologies qu'on appelle duales, donc à la fois civiles et militaires, mais ce qui rapporte le plus, c'est le militaire, mais ça ne parle pas beaucoup à la presse. Donc, ils font ça, ils prennent une technologie militaire. Là, en l'occurrence, ils font énormément de simulations, hein, notamment pour les militaires en activité. Et donc, de simulation de vol, simulation de tank, simulation de situation de conflit. Et donc, ils ont extrait cette technologie-là pour en faire un simulateur de mêlée, pour entraîner les joueurs de rugby à foncer dans une grosse machine, une araignée énorme. Et donc, ils s'entraînent là avec ça, quoi. C'est le dernier truc qui est sorti début juin, pour vous dire à quel point, finalement, ils sont prêts à dériver dans un objet civil. En plus, c'est du jeu, c'est très patriotique, hein, le sport. Et pour derrière, en fait, prouver leur technologie, leur savoir-faire et revendre encore plus de matériel militaire pour entraîner les futurs fantassins en Irak, aller jouer aux jeux vidéo avec ces simulateurs-là, quoi. Voilà. Bah, donc, Thales a été vraiment à dépasser le ministère de l'Intérieur. Voilà, on est je dis chapeau, quoi, finalement.
On va faire une pause musicale, mais avant ça, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut retrouver un certain nombre d'informations sur votre site, sur toutes les questions dont vous avez parlé, les nominés.
Tout y est.
Le site, c'est...
C'est bigbrotherworlds.eu.org.
Et on va passer un petit morceau de musique. On va passer Futa. Et ça s'appelle Mais c'est là...
C'est un combat, ce n'est pas un ruisseau tranquille, mais un torrent qu'il nous faut remonter de manière habile sur un radeau que la vie rend de plus en plus fragile. Mon gars, fais attention, ne perds pas ton fil. Tous les jours, faut qu'on s'active, à tout prix, faut qu'on survive. Bien trop de nos amis déjà sont partis à la dérive. Chacun doit tenter sa chance, nourrir sa vie d'espérance. Même si c'est pas facile, faut qu'on avance. Mais c'est la vie qui veut ça, que tu le veuilles ou pas, non, c'est comme ça. Abat-toi, ne baisse pas les bras, mais c'est la vie qui veut ça, que tu le veuilles ou pas, non, c'est comme ça. Mais c'est la vie qui veut ça, que tu le veuilles ou pas, non, c'est comme ça. Abat-toi, ne baisse pas les bras, mais c'est la vie qui veut ça, que tu le veuilles ou pas, non, c'est comme ça. Trop de gens finissent désabusés, le combat les a usés. Plus question pour eux d'aller s'amuser. La vie est une paroi, pour la franchir il faut ruser. Mettre ses doigts au bon endroit, ne surtout pas lâcher prise. Quoi qu'il en soit, continuer de croire en soi. Garder la foi, franchir la vie, voir après voir. La vie est un combat, je sais tu le sais déjà. Mais je te le rappelle man pour que tu ne l'oublies pas. Mais c'est la vie qui veut ça, que tu le veuilles ou pas, non c'est comme ça. Abat-toi, ne baisse pas les bras, mais c'est la vie qui veut ça, que tu le veuilles ou pas, non, c'est comme ça. Avec les armes qu'on nous a laissées, pas pour agresser, mais pour ne pas se laisser blesser. Ouais, la musique nous permet d'encaisser les coups durs et d'endurer. Même si c'est pas facile, on fait avec. On lutte encore et encore avec les moyens du bord. Toujours plus d'efforts, crier haut et fort. Que Babylone nous divise pour mieux régner. C'est là du réalité, il faut se réveiller et aller l'affronter. Mais c'est la vie qui veut ça, que tu le veuilles ou pas, non, c'est comme ça. Abat-toi, ne baisse pas les bras, mais c'est la vie qui veut ça.
Radio Libertaire 89.4. Donc, nous sommes avec Christine et Jérôme des Big Brother Awards pour parler donc des 10 ans et de cette nouvelle. Et Jean-Pierre, qui était membre du jury et qui est aussi aux Amis d'Orwell. Donc, on voulait parler donc, de ces 10 ans et donc de cette nouvelle page qui se tourne.
Et oui, toutes les choses ont une fin. Enfin, pour nous, nous, on a dit qu'on passait la main. Jérôme, moi et Jean-Marc. Parce que, bon, voilà, 10 ans, ça fait une bonne distance, une bonne durée. C'est beaucoup de travail et qu'on a un peu aussi envie de s'activer autrement. Et donc, on tourne la page et on espère bien que d'autres viendront... éventuellement changer la formule, d'ailleurs, qui demande peut-être à être renouvelée.
Oui, c'est ça, la formule use. Et donc, nous, au centre, on est évidemment usés. Je vais faire la réflexion que j'ai faite, en fait, le soir même, en fait, quand on a fini la 10e cérémonie. Tous les ans, vous savez, il y a un décorum, les Big Brother Awards, c'est, bon, il y a une scène ou pas, mais on a les trophées, on a quelques petites banderoles un peu bien senties. Et en fait, j'ai ressenti un truc bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est tous les ans, je ressors ces trucs de mon carton dans ma cave. Et je ressors ça et j'avais l'impression de sortir un sapin de Noël que je fais depuis longtemps, évidemment. Mais là, je me suis dit, non, là, il y a un problème. Là. Si vraiment on en vient, j'avais vraiment le sentiment de ressortir des trucs avec la poussière, tu vois, avec de voir justement, tiens, qu'est-ce qui nous reste? Ah, j'avais oublié qu'il y avait ça, tu vois. Tu découvres dans ta petite boîte les guirlandes et les petites boules. Et là, c'est voilà, là, t'avais les trophées, t'avais donc tout un souvenir derrière aussi, parce qu'il y avait des vieux flyers, des vieux trucs dans les affaires. Et c'est vrai que je me suis dit finalement, ben, si vraiment tu le ressens comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il faut changer, quoi. Faut changer de mode d'action, faut changer de perspective. Faut, voilà, le côté cérémonial, théâtral. Alors qu'on est, faut le rappeler, 100% bénévole, on n'est pas comédien. Là, cette fois, grâce à Michel Roger de la compagnie Joli Môme, on s'est fait un peu driver. On a donc été coaché pour être moins stressé sur scène, etc. C'est forcément,
oh oui,
c'est un truc qui en fait, on a depuis 10 ans, ce qu'on a fait, c'est essentiellement des répétitions générales devant tout le monde. En fait, on n'a jamais vraiment répété. C'était cette spontanéité aussi, je pense, qui était aussi appréciée dans ceux qui nous suivaient. C'est qu'on n'était pas, voilà, c'était pas réglé comme du papier à musique, on n'était pas...
Cette année non plus. Hein.
Cette année non plus, voilà.
D'ailleurs.
Mais c'est vrai qu'on, voilà, c'est aussi pour ça. La formule, je pense, pour le public est assez usée. On n'a pas peut-être pas réussi, mais bon, c'est pas grave, à la renouveler. Donc, nous aussi, ça nous use. Je pense que c'est ça aussi, c'est que dans ce genre d'action, si à un moment donné ça devient un poids, faut arrêter, quoi. Faut plus.
Oui, puis je pense que, enfin, dans les autres pays, il y a le même phénomène
ça
d'usure.
Ça s'est essoufflé, quoi. Tous les autres pays ont eu des hauts et des bas. Et...
Mais vous sentez d'autres gens qui sont prêts à reprendre le flambeau? Vous avez des idées de comment ça peut se transformer?
Non, mais j'ai même plus envie d'avoir d'idées, moi, maintenant. J'ai plutôt envie de répondre à des idées ou de... Si, j'en ai des idées, mais dans le cadre du côté cérémonial du Big Brother Awards, de remettre des prix, à part passer 10 ans à aller remettre tous les prix qu'on n'a pas eu le temps de remettre, par exemple, pourquoi pas? Moi, si je passe 10 ans à faire ça, je serais content, quoi. J'irais voir mes ennemis en face, quoi, au lieu de le faire sur une scène avec une distance.
Non, mais sinon, on remet l'association Privacy France, elle continue à exister. Elle peut servir aussi à d'autres choses que les Big Brother Awards, donc ça, on verra à l'avenir. Mais on remet la balle sur le terrain et puis on espère bien que des gens vont la reprendre et en faire quelque chose d'autre ou la même chose. On verra bien. On n'a pas d'idée préconçue et c'est pas à nous de définir la nouvelle forme que ça va prendre.
Mais concrètement, donc il y a un site, donc il va rester vivant. Enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à continuer?
Nous, on est encore là pour assurer cette. Et puis, en tant qu'association, en tant qu'ONG qui s'intéresse à ces questions-là, on est déjà membre d'autres collectifs comme le CDL à Paris avec Souriez, vous êtes filmé, le collectif Anti-Bas Élèves. On est aussi membre du collectif Liberté, Égalité, Justice, le CLEJ qui a été monté il y a 3 ans avec des syndicats, des organisations justement plus professionnelles, mais qui sentent monter un sécuritarisme au sein même de toutes les franges de la société, enfin des activités professionnelles. Donc voilà, donc continue à être présent dans ce tissu-là, quoi, dans ce tissu de résistance ou d'alerte sur ces questions de surveillance et de fichage. Après, effectivement, c'est plus le côté cérémonial qui a peut-être manqué à certains, mais voilà, on fera autre chose. On fera peut-être des choses pas forcément annuelles, on fera peut-être des choses mensuellement, ou peut-être des biennales, on va faire des biennales, j'en sais rien.
Parce que pour revenir un peu juste à la cérémonie, du coup, vous avez invité des gens des BBA des autres pays de Suisse et d'Allemagne, vous pouvez nous en parler un peu, parce que c'était sympa, ça, justement, de les avoir un peu et d'avoir une perspective un peu plus globale des BBA, quoi.
Bah, c'est vrai que les 10 ans nous a donné tout simplement l'idée de se dire pourquoi pas aller enfin rencontrer ou inviter, enfin en l'occurrence c'est eux qui nous rencontraient parce que c'est eux qui devaient venir, mais donc j'ai invité à peu près tous ceux qui étaient encore en activité, et il y a des collègues de Suisse et d'Allemagne qui sont venus.
Donc Christian Müller.
Christophe Müller. Et Suzanne S, donc de l'Allemagne, qui tous les deux nous ont exposé, eux aussi ont fêté leurs 10 ans juste avant nous. Donc eux aussi avaient cette expérience de longévité, mais aussi de haut, de bas, comment relancer la machine, etc. Et c'était assez intéressant, effectivement, d'avoir ce recul.
Et la différence, je crois que c'est Suzanne qui racontait en Allemagne, contrairement à nous, où jamais aucun primé Orwell n'est venu retirer son prix publiquement, eux, ils ont réussi à avoir des gens. Il y a Microsoft qui est venu il y a pas mal d'années.
C'était une des premières.
C'était 2002, une des premières, donc c'était... Je pense qu'il devait y avoir un staff de presse un peu innocent à Microsoft Deutschland et qui se sont dit que ça ferait peut-être une opération de com d'y aller, donc ils y sont allés. Et puis les deuxièmes.
Il y avait Deutsche Telekom, plus récemment en 2009, qui ont délégué un communicant pour venir serrer la paluche au Master of Ceremony allemand. Donc là encore, c'était pour eux, ça devenait aussi de la com, d'accepter d'être en face de ceux qui les dénoncent. Donc c'est un peu ça qui peut peut-être à la limite nous faire dire qu'on a bien fait d'arrêter, parce que plus finalement on est célèbre, plus on a d'impact, plus finalement les gens en face peuvent avoir tendance, surtout les entreprises évidemment, avoir tendance à profiter justement de cette publicité négative pour en faire de toute façon une aubaine médiatique. Donc même si c'est négatif pour eux, ils savent très bien que voilà, c'est tant de citations dans la presse. Et quelque part, quand on vend des technologies de surveillance, des choses qui sont de toute façon qui n'ont pas bonne presse, qu'on parle de vous en mal ou en bien, pareil, quoi, c'est tout bénef. Donc voilà, donc les Allemands ont réussi finalement à...
Ils ont d'autres modes d'action, elle expliquait. Ouais. Il y a une personne des BBA Deutschland qui a été, je ne sais plus dans quel contexte, invitée. On lui a donné quelques actions.
C'était le groupe Bayer, parce qu'ils ont un prix, une catégorie spéciale pour les entreprises qui fliquent leurs salariés. Ça, on l'a pas créé en France, mais bon, on avait des candidats tous les ans. Et donc là, c'est Bayer qui faisait passer des tests d'urine à ses candidats à l'embauche. Donc là, vous avez toutes les drogues qui apparaissent. Et donc, ils ont remporté un trophée il y a 2 ans. Et ils ont réussi, via une association de petits porteurs, à donc se faire donner des actions Bayer. Et donc, avoir un droit de vote et de présence à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Et donc là, devant 3000 actionnaires de Bayer, ils ont pu interpeller la société. En leur faisant remarquer qu'ils ont eu cette distinction. Et pourquoi ils l'ont eu. Et donc, c'est vrai qu'elle nous disait que finalement qu'on peut effectivement continuer à considérer que notre cérémonie joviale qui touche 300, 400, 500 personnes, c'est bien, mais c'est des gens convaincus. Alors que là, elle se pénétrait au sein même d'organes de pouvoir décisionnaires, parce que c'est des actionnaires, donc des petits porteurs, comme les grosses banques qui sont présents. Donc faire une irruption au sein donc, de ces assemblées générales qui sont évidemment soporifiques au possible. J'en ai assisté une fois chez Vivendi, c'était l'horreur. Et donc en revanche, les questions qui sont posées par les petits actionnaires généralement sont très pertinentes. Et là effectivement, donc, grâce à ce don d'action, elle a pu avoir le droit de pénétrer dans ce sein des seins et donc interpeller la société devant ses actionnaires. Et ça c'est pourquoi pas un mode d'action pour Thalès, pourquoi pas, parce que Thalès c'est vrai que c'est un groupe qui est coté en bourse. Il y a aussi effectivement, ça peut être, par exemple, tu vois, ça peut être un mode d'action.
Ah, il y a du pain sur la planche.
Il y a des choses à faire, quoi.
Et en dehors, donc, et en Suisse, alors, est-ce qu'ils ont une action particulière aussi, des choses
En Suisse, Christophe est venu, Christophe Müller, qui lui, ça fait 10 ans aussi, qui, c'est vraiment notre alter ego, c'est le type qui, depuis 10 ans, rame, fait ses dossiers consciencieusement. Eux, c'est tous les ans, le 29 octobre, je crois que c'est une date anniversaire à propos d'Orwell, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Et donc, lui, il est venu nous expliquer que. Eux aussi, ils ont bien ramé pour avoir des gens qui viennent chercher leur prix. Et à la fin, ils nous ont même montré quelqu'un qui était censé être du ministère de la Défense, mais en fait, c'était un comédien. Donc voilà, bon.
Et il a dit qu'il y avait de l'usure aussi.
Oui,
hein, de son côté.
Lui aussi, il sent que.
Ils abordent les 10 ans l'année prochaine et c'est pareil, ils se posent des questions sur la forme, est-ce qu'il faut renouveler, comment faire ça autrement. Voilà.
Lui, par exemple, il avait envie de faire un concours de chansons, de musique, de court-métrage, tu vois, donc. On peut être aussi dans la dénonciation en appelant les gens à s'exprimer différemment. Nous, on est journalistes, donc forcément, faire des dossiers, écrire des argumentaires, on sait faire, c'est notre truc. Mais il y a d'autres modes d'action qui vont dans le même sens et qui pourront peut-être intéresser des gens pour nous rejoindre et pour faire des actions estampillées Big Brother Awards, mais qui ne seront plus dans ce mode cérémonial, annuel, couperet.
C'est-à-dire que le nom reste Big Brother Awards, mais il se transformerait en...
De toute façon, le nom, il est international. Hein. Il y a 15 pays qui l'ont repris. Certains ont arrêté, certains ont repris, certains continuent. Après, oui, ça reste... c'est un peu con de dire que c'est une marque, parce que ce n'est pas une marque, mais quelque part, si, c'est un tampon, quoi. C'est quelque chose qui est assez bien reconnu, et puis on ne va pas s'en priver, quoi.
Et moi, là, tu parlais des formes artistiques différentes. Je voulais juste en profiter pour dire qu'on a quand même toujours eu des artistes avec nous, dans l'équipe. Et puis, parfois même au jury, il y avait des gens qui avaient vraiment un point de vue tout à fait autre sur les dossiers et qui avaient une subtilité pour en parler sur scène. Moi, j'ai beaucoup aimé les quelques artistes qui sont passés. Et chez nous, on a eu différentes sortes d'artistes, mais bon, on en a un qui fait les trophées chaque année, donc on a une collection assez imposante. Et ce sont de très belles sculptures en elles-mêmes. Donc, il m'a dit qu'il pensait peut-être faire une exposition des trophées BBA.
Voilà,
donc,
peu,
lui, c'est Pascal Schmitt. On a eu un musicien et un gesson, Bernard Lombardo, qui lui était sur scène derrière nous au début, les deux années à la Flèche d'Or.
Avec son groupe
Ketama, et qui là a fait un morceau spécial BBA
qu'on a passé
la dernière fois. Et bon, qui est un présent, un fidèle depuis le début. On avait Cyril Cavalier qui est quelqu'un qui a fait un bouquin sur les nouveaux modes de résistance et qui est un photographe qui a travaillé sur l'affiche. On a eu une série de ROF, on n'avait jamais eu ça avant, et on a eu une super belle affiche cette année. Donc j'ai dit ça. Et puis là, en plus, il y avait joli mot, mais une troupe entière de théâtre, plus ceux qui sont dans l'atelier chanson ou l'atelier théâtre. Et notre Big Brother Master of Ceremony, Cyril, qui nous accompagne depuis 2 ans et qui a vraiment un talent, une pêche.
Le roi de l'impro, voilà.
C'est quand même joli mot, m'a donné vraiment un aspect particulier.
Elle a introduit, elle a accompagné, elle a conclu. Vraiment, c'était.
On sentait que le lieu participait à l'événement.
Mmh. Oui, c'est la première fois, je crois, que ça participe autant. Et puis, on était vraiment, nous, ravis de l'accueil et puis d'être dans un magma humain comme ça, où ça, c'est tellement bien, quoi.
Et Christine, tu disais que tu es journaliste et tu nous parlais, donc tu as fait une enquête sur l'affaire Soumaré. Hein.
Oui, pas tellement sur l'affaire. Enfin, l'affaire Soumaré, j'ai suivi parce que c'était tellement énorme, ce type qui est candidat en Île-de-France. Et puis du jour au lendemain, on le traite de délinquant multirécidiviste. Et on sort une espèce de casier judiciaire énorme, plus qu'un casier, puisqu'il y a des condamnations, des affaires en cours qui ne sont même pas jugées, statuées. Et il y a aussi, finalement, des affaires qui appartiennent à des homonymes. Et ce sont deux maires, Francis Delattre et Sébastien Meurant, qui sortent ça publiquement dans la presse. En disant, nous avons nos sources, alors ce sont des sources policières, sources machin, des témoins, des affaires, etc. On est sûr de nous. Et finalement, il s'avère qu'ils sont allés pêcher ça dans un fichier de manière illégale, évidemment. Donc au début, le suspect, c'était le STIC. Pechnard, dont on parlait tout à l'heure, et Alex Turc, dont on parlait tout à l'heure aussi, ont dit, nous allons nous hâter lentement et faire une enquête. Il s'est passé une semaine, deux semaines. Oui, bon, peut-être le stick, mais enfin, c'est pas sûr, mais il n'y a pas tout dedans. Et puis moi, j'avais publié début mars dans Politis, parce que j'avais interrogé un magistrat du syndicat de magistrature, qui m'avait dit, pour moi, c'est la NCP, la nouvelle chaîne pénale.
C'est quoi, ça ?
Ben, la nouvelle chaîne pénale, c'est un truc tout vieux. C'est un fichier application, c'est l'applicatif de gestion des procédures judiciaires sur les 7 tribunaux, les 7 parquets de la région parisienne. Ça existe depuis plus de 20 ans. Ça a été déclaré déclaration simplifiée à la CNIL en 93. Donc ça engrange depuis toutes les affaires. Ça va du bureau d'ordre d'enregistrement des affaires à l'application des peines, toutes les affaires concernant tous les justiciables qui passent par ces tribunaux. Et donc ça fait du lourd. C'est pas nettoyé, c'est pas actualisé. Ce qui doit être effacé, puisqu'il y a prescription au bout d'un certain nombre d'années, n'est pas effacé. En enquêtant, je m'aperçois que il n'y a eu aucun contrôle de la CNIL. Donc gros point d'interrogation. Pourquoi ? Eux, ils disent c'est parce que depuis 2004 seulement on fait vraiment des contrôles. Entre 2004 et 2010, ils avaient le temps. D'autant plus que ce truc-là va être remplacé par un autre machin, un autre applicatif fichier qui s'appelle Cassiopée, qui est une usine à gaz qui dysfonctionne totalement. Il faut demander au syndicat de la magistrature, ils vous diront ce qu'ils en pensent. La CNIL attend avec impatience Cassiopée, puisque c'est l'application qui va permettre de corriger les erreurs du STIC. C'est-à-dire que les parquets pourront actualiser les fichiers STIC et faire qu'il n'y ait plus autant d'erreurs, théoriquement. Et là, la CNIL a enquêté 14 semaines après l'affaire Soumaré. La CNIL dit donc c'est la nouvelle chaîne pénale. Ça a bien été sorti de là. Intégrale, tout ce qu'ils ont dit, ça vient de là. Qui est le coupable ? C'est quelqu'un au parquet de Pontoise. On ne peut pas aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Et donc, c'est la faute du ministère qui gère mal ses fichiers, le ministère de la Justice, qui gère mal ses fichiers et qui aurait dû mettre de la traçabilité.
Traçabilité, ça veut dire juste, parenthèse, tout simplement savoir un journal de bord, en fait, qui accède.
Des
à quelle heure, pendant combien de temps, voilà.
Avec quel mot de passe ? Alors là, il faut savoir que la NCP, c'est identifiant, c'est le nom de la personne, et mot de passe, c'est le mot de passe qu'il a choisi. Donc sa date de naissance, le prénom de sa maman ou le nom de son chien, quoi. C'est catastrophique. Ça s'appelle des données sensibles. Il y a un article 8 de la CNIL qui dit que ces données-là doivent être ultra sécurisées. Que les accès doivent être contrôlés. Donc là, on n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'on va avoir sur Cassiopée ? Une meilleure sécurisation, mais elle n'est pas parfaite. La CNIL a rendu un avis sur le décret de publication de Cassiopée en disant que le niveau de sécurisation était insuffisant. Donc techniquement, on pouvait faire bien mieux, ça ne coûtait pas beaucoup plus cher. Donc, qui demande au ministère de sécuriser et qui demande qu'il y ait cette journalisation des consultations, donc la traçabilité. Et le ministère n'a pas répondu. L'avis date de 2008, je crois. Le ministère n'a pas répondu pour le moment. Et donc, la traçabilité n'est pas dans le fichier pour le moment. Enfin, il y a une journalisation, mais il n'y a pas l'élément supplémentaire qui permet de retracer les accès illégaux, justement, ou trop fréquents, multiples.
Ce qui est censé être présent dans le STIC et ce qui est censé aussi être présent dans les deux fichiers Edwige qui ont été légalisés en octobre 2009. Là. Donc, Alex Turc qui avait devant la caméra crié victoire en disant « ça y est, on a obtenu un truc super, on pourra donc... » tracer les accès à ces deux fichiers Edwige.
Ouais.
Donc c'est logiquement quelque chose qui est connu depuis longtemps. Si on veut éviter les abus, il faut savoir qui a accès donc pour retrouver finalement les personnes. Mais ça fait depuis 15 ans qu'on sait qu'il faut faire ça, quoi. Et donc là, on se rend compte que sur cet énorme joujou, donc la NCP donc autour de Paris, le seul outil informatique utilisé par les parquets pour classer les affaires, on ne sait pas qui peut y accéder, quoi.
Et la nouvelle, donc je redis NCP, donc nouvelle chaîne pénale, ça existe qu'en Île-de-France, ça ?
Ben oui, ça c'est celle-là, c'était la première qu'ils avaient appelée comme ça. Et c'était pour la région parisienne. Maintenant, Cassiopée est une nouvelle chaîne pénale au niveau national.
D'accord.
Et elle est implémentée en province. À Bordeaux, ça dysfonctionne énormément. Et il y a eu un groupe de travail avec des syndicalistes et des experts, des magistrats, etc., qui sont allés sur place constater l'étendue des dégâts, qui ont envoyé une lettre ouverte à Liomarie, puisque elle était déjà en poste comme garde des Sceaux. Et qui n'ont obtenu aucune réponse. Et eux ont alerté sur un dysfonctionnement général de la justice en France, si on mettait ça en marche sans avoir amélioré l'applicatif. Et le maître d'œuvre, enfin celui qui gère les choses, c'est Atos, Origine. Donc c'est un truc tentaculaire et il y a des histoires de sous aussi parce que Atos facture la moindre modification, ça doit remonter à 50 000.
Une grosse SS2I, une société de services informatiques qui a été épinglée il y a plusieurs années pour gérer n'importe comment les données personnelles de notamment des banques, comme la Banque Directe.
Donc voilà, nous n'avons face à nous que des experts, n'est-ce pas ? Des experts officiels. Dont on se demande où est-ce qu'ils ont appris leur métier.
Donc encore beaucoup de travail pour la protection des libertés.
Ouais, oui, je crois. Je crois que Big Brother a encore de beaux jours devant lui.
Donc, je ne sais pas, quelle perspective alors pour vous, personnellement, si vous arrêtez
On continue à s'intéresser à ces questions-là. C'est juste, juste la manière d'exprimer qui va peut-être changer. Voilà. Il y a peut-être une histoire de... Peut-être un projet de festival, de film, un truc comme ça, peut-être des concerts aussi.
On a évoqué l'idée d'un documentaire ou d'un web-docu qu'on aimerait bien faire, puisqu'on a déjà fait un livre il y a 2 ans. Donc plutôt que de refaire un livre pour les 10 ans, l'idée d'un web-docu, on a beaucoup de matière vidéo. Beaucoup de choses ont été tournées, il y a eu des remises de prix tournées. Donc il y avait Navarro avant Téléplaisance qui bossait avec nous. Et quand lui a arrêté, il est passé à autre chose. C'est Regarde à vue qui est venu. Donc ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille avec Regarde à vue. On a des archives.
C'est quoi déjà Regarde à vue, hein ?
C'est une association de... c'est des réalisateurs, ils font de la vidéo, ils accompagnent, ils font des captations, et toujours dans un esprit qui est vraiment très proche du nôtre.
Oui, qui travaillent avec des tas de collectifs et d'assos, d'orga. Ils ont beaucoup travaillé avec Jolimôme.
Regardeavue.org, ils ont une banque de données vidéo.
Ils ont beaucoup de choses. C'est eux qui ont fait le streaming encore cette année, qui ont tout tourné. Il va y avoir un montage d'ailleurs de la cérémonie de cette année qui sera mis en ligne, qui sont en train de finir. Il y a des idées comme ça. On a parlé théâtre, évidemment, étant à Jolimôme, on a parlé théâtre. Donc il y a une idée dans l'air comme ça, à travailler peut-être. Pas la énième transposition du bouquin de George Orwell, évidemment. Autre chose. Après, ça peut prendre de multiples formes et des collaborations avec d'autres gens. Et c'est ça qu'on a envie, nous aussi, en tant qu'individus, quoi, en tant que personnes, de se nourrir un peu d'autres choses.
Il y avait par exemple une compagnie qui s'appelait Artists Not Dead. Ils ont fait des choses en ne connaissant pas forcément. Peut-être faire les choses avec eux, tu vois, des actions concrètes dans la
Qu'est-ce qu'ils avaient fait déjà ? Ah oui, ils étaient venus il y a 2-3 ans au Big Brother Awards, c'est ça ?
C'était contre les drones, en fait.
Ouais, ils ont fait une action en Seine-Saint-Denis en se déguisant en personnel de sécurité qui informait les passants du fait que des drones, désormais, allaient les surveiller toute la journée, qu'il fallait donc qu'ils évitent les parapluies, les poussettes...
Les capuches.
Ne pas courir vite, éviter les vélos. Tout ça pour pousser à l'absurde, finalement, l'acceptation du public.
Et du coup, me vient une question, là. Vous n'avez pas fait un prix Voltaire pour les 10 ans ?
Non, parce que le prix
Voltaire... parce que tous les tous ceux qui ont été nommés, désignés...
Ils le méritent tous.
Ils le méritent d'être là, quoi. C'était un peu... Voilà, c'était le côté vrai concours pour les vrais gentils, ça nous a semblé un peu dérisoire.
On en avait nominé, en général, chaque année, une bonne douzaine. Parfois, on donnait un prix Voltaire aux 12, c'est arrivé une fois. Parfois, on en donnait un, parfois, on en donnait deux, trois, parce qu'on avait du mal à trancher. Et là, c'est pareil, c'est tous les Voltaires nominés sur 10 ans ont tous le prix des 10 ans.
Il y avait d'ailleurs Benjamin de Quenin, qui est un agriculteur, qui a fondé le collectif Refus ADN, qui était présent avec nous. Il a reçu le prix il y a 3 ans, on n'a même pas eu l'occasion de lui remettre. Donc, c'était bien de le rencontrer.
Il était au Barcamp, c'était d'ailleurs super intéressant.
Alors le Barcamp, vous ne nous avez pas rappelé ce que c'était ?
C'était des ateliers. C'est
les discussions.
Un petit groupe, voilà, sur les problèmes.
Contre-surveillance, sur le thème de la contre-surveillance. Et l'idée, c'était que les gens échangent à la fois sur des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur profession ou dans leur vie vis-à-vis du contrôle et de la surveillance. Et c'était aussi des gens qui ont des modalités d'action ou des idées pour aller contre cette surveillance. Et justement, Benjamin avait ça de très intéressant, c'est qu'il travaille beaucoup avec des gamins défavorisés et qu'il il met au point des petites formations pour leur apprendre à faire, par exemple, une fausse empreinte digitale. Ça marche très bien, ils s'amusent comme des fous et ça apprend ce que c'est que l'empreinte, ce que c'est qu'un système de contrôle. Voilà, ça permet de dire beaucoup de choses.
Quand ils envoient une à la cantine, ils ne voient pas ça comme une machine qui clignote et qui fait du bruit.
Et ça, son idée générale, lui, c'était de subvertir le système en le gavant. En le gavant d'informations, parce qu'on sait très bien que les machines fonctionnent très bien, mais à partir du moment où elles sont saturées d'informations... là, ça dérape. À un moment, ça dérape.
Il va y avoir un retour de ces ateliers ou quelque chose, ça a été filmé ou
Non,
ça n'a pas été filmé.
Non, c'était plus des échanges, des choses très qui peuvent être informelles, quoi. Les rencontres, des dialogues, des échanges de trucs ou de sites d'information.
C'est quand même ça qui est important, c'est de savoir comment sur les libertés on peut continuer à rester tous en réseau et sans participer d'une organisation, et comment chacun des collectifs ou des individus peuvent s'apporter mutuellement selon leurs envies des choses qui se complètent et qui font boule de neige.
Oui, y avait eu quelque chose aux frappes où on était, où il y avait eu une discussion.
Exactement,
comme ça, les
oui.
gens avaient exprimé le besoin de continuer. Tu avais dit, il y a une feuille à l'entrée, on peut laisser son nom. Et on avait donné rendez-vous au Barcamp des BBA. Au Barcamp des BBA, on n'a pas fait le relevé, on n'a pas osé faire le fichier des adresses mail. Mais on a dit, si les gens qui ont envie de se revoir, manifestez-vous. Voilà, il y a un mail sur les BBA, il peut y avoir un prochain rendez-vous sur ce genre d'atelier d'échange.
Je crois que ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci. Et puis, sûrement à bientôt aux Amis d'Orwell. Vous aurez plein de choses à nous apprendre.
Sans doute.
Alors, on se quitte avec une petite chanson qui est un petit clin d'œil pour vous. Ça s'appelle La Dernière Danse. Et il s'appelle Les Hurleurs.
Quelques pas vers le bas hier, et tu n'y étais pas. J'aurais pourtant voulu hier y danser avec toi. C'était une belle journée hier, tu t'en rappelles ou pas? Toutes ces choses que l'on dit hier finissent toutes comme ça. Toutes les choses que l'on dit hier s'en vont, restent là. Quelques pas vers le bas hier, et tu n'y étais pas. J'aurais voulu danser hier, une autre danse que ça. Ou même parler autour d'un verre de ce qu'on ne dit pas. Ce qu'on ne dit jamais hier, un jour reviendra et nous fera couler en mer ou dans ce fleuve-là. Quelques pas dans ce bal hier, et nous sommes toujours là. Nous sommes toujours les pieds par terre, et nous ne dansons pas. Et nous parlons à peine d'hier, on ne se livre pas. Tous
ces mots que l'on dit d'hier. Ils cachent on ne sait quoi. Ils cachent à peine ce doux calvaire qui s'en vient et s'en va.